France Inter.
Alexis Morel pour le journal, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Une montée soudaine des eaux qui a surpris en Bourgogne. Trois départements en vigilance rouge au cru, nous serons à Montbard en Côte d'Or. Un procès qui passe mal chez les secouristes en mer. Trois ans après la mort de trois marins dans le naufrage de leur chalutier en plein remorquage, cinq personnes sont jugées cette semaine au Havre, dont un bénévole de la SNSM. Explication à suivre. Dans ce journal aussi, la troisième grève contre les groupes de niveau au collège. Au Sénégal, l'investiture aujourd'hui du nouveau président Faye. Et puis des inédits de Marvin Gaye dévoilés 40 ans après sa mort.
France Inter. Après la Touraine et le Poitou, c'est désormais la Bourgogne qui est touchée.
Par des crues exceptionnelles, selon l'organisme Vigicru, la vigilance rouge concerne ce matin trois départements, l'Yonne, la Côte d'Or, mais aussi la Saône-et-Loire. Trois rivières suscitent plus particulièrement l'inquiétude, l'Armançon, le Serein et l'Arroux qui dépasse par endroits le niveau de la crue majeure de 1982. À Montbard, entre Dijon et Auxerre, parole de sinistrés en train de sauver ce qui peut l'être.
Ouais, des sièges auto, tout ce qu'on peut sauver, on le sauve. C'est tout, ça coûte cher, hein, tout ça. On n'a pas les moyens de repayer tout ça. Donc on le sauve. Voilà. Lui, il habite ici, on est proprio. Là, il y a une grange qui est complète à inonder. On essaye de sortir le maximum de trucs.
Et vous, jeune homme, vous avez des bottes, mais les bottes, l'eau est mi-cuite, donc c'est ça.
Vous voyez bien par vous-même.
Vous voyez ma voiture là-bas ? Bah elle est dans l'eau.
Voiture,
on voit même plus la plaque d'immatriculation. Et là vous voyez une petite mamie de 103 ans qui attend d'être libérée par les pompiers. Hier ma proprio m'avait prévenu qu'il allait avoir des intempéries, mais je pensais pas qu'elle allait en avoir autant.
Alors tout est sous l'eau chez vous ?
Pas tout est sous l'eau parce qu'en fait j'habite à l'étage là-haut, mais il n'y a plus de courant, plus d'électricité. Et en fait vous voyez là-bas c'est la grange qui est inondée où il y avait tout l'électroménager, enfin il y avait plein de trucs quoi. Et tout ça c'est sous l'eau, c'est plus grave.
Aussi les commerces, Anatole Artemis,
oui.
Le bistrot,
c'est un café, oui,
l'hôtel
oui.
De l'Écule, le photographe, l'agence du bien public aussi.
Oui, ils sont tous dans l'eau les pauvres.
Ah, y a monsieur qui essaie d'arriver en vélo là-bas, oui. Ça va être compliqué.
Oui, je pense que ça va être très très compliqué.
Bon courage monsieur.
Merci.
Témoignage à Montbard recueilli par France Bleu Bourgogne. Trois jeunes marins morts dans le naufrage du chalutier Braise une nuit de janvier 2021 au large des côtes normandes. Trois ans plus tard, le procès s'ouvre aujourd'hui au Havre et il est mal vécu par les bénévoles de la SNSM, la société de sauvetage en mer, car l'un d'entre eux comparaît sur le banc des prévenus. C'est le capitaine du bateau qui a tenté de remorquer le chalutier cette nuit-là. La justice lui reproche notamment trop de précipitations dans cette opération de secours. Au total, Carole Louis, cinq personnes vont être jugées jusqu'à vendredi.
L'équipage du Braise, deux frères et le patron du chalutier, tous trois âgés de 19 à 27 ans, ont alerté les secours dans l'après-midi du 14 janvier pour une avarie de barre prise en charge par le canot de la SNSM. Le navire sombrera finalement au large de Lyon-sur-Mer. L'enquête pointera de multiples causes, de mauvaises conditions de mer avec des creux d'un mètre de hauteur pour un bateau déstabilisé par un surpoids de coquilles. Un navire construit en 1979 qui avait révélé des problèmes d'étanchéité, de stabilité et de gouvernail les mois précédant le naufrage. Il y a aussi l'inexpérience de l'équipage. Le patron du Braise n'avait pas le brevet obligatoire et le plus jeune marin pas de titre professionnel pour être matelot. Au lendemain du naufrage, les bénévoles de la SNSM avaient été entendus. Un seul, le capitaine, est donc renvoyé devant le tribunal aujourd'hui, ainsi que quatre autres personnes, le co-armateur du chalutier, deux fonctionnaires de la direction des territoires et de la mer et un expert maritime.
Ils jurent n'avoir jamais eu d'intention criminelle. Deux militants basques sont jugés aujourd'hui et demain à Paris. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison pour avoir transporté des armes de l'ETA, arrêté en décembre 2016 en possession de 15% de l'arsenal de l'organisation séparatiste. Cet homme et cette femme d'une soixantaine d'années assurent qu'ils avaient récupéré ces armes pour les neutraliser après l'annonce par l'ETA de l'abandon de la lutte armée. Mais la justice soupçonne, elle, une destruction de preuves. 15 jours après leur dernière mobilisation, Nouvel appel à la grève aujourd'hui chez les enseignants, toujours contre les mesures du choc des savoirs, en particulier ces groupes de niveau en 6e et 5e dès la rentrée prochaine pour le français et les maths. Pour l'intersyndicale, pas question de relâcher la pression, Adèle Belloumri.
Tant que le gouvernement n'abandonne pas totalement l'idée de l'école du tri social, on ne va pas rompre, prévient Sophie Vénétité, secrétaire générale du principal syndicat d'enseignants, SNES-FSU.
En quelques mois, on a bien senti que ça avait mis des doutes dans la tête de l'administration. On a bien vu aussi ce qui s'est joué à travers la publication des textes et la passe d'armes entre Nicole Belloubet et Gabriel Attal. Donc les choses ne sont pas figées.
Et les textes récemment publiés au journal officiel n'ont pas changé. changer la donne. Pas de mention de niveau, certes, mais des groupes en fonction des besoins des élèves en 6e et 5e. Pas de quoi étioler la mobilisation qui, au contraire, s'ancre dans les territoires, dit l'intersyndicale. Une mobilisation soutenue de plus en plus par les parents d'élèves pour un choc des moyens, comme en Seine-Saint-Denis. Thibaut Nicolas est prof de français au Blanc-Mesnil et élu syndical CGT Éducation.
C'est par la mobilisation qu'on crée du collectif. Il y a des parents que j'aurais jamais réussi à rencontrer par le biais normal de l'école. Tout le monde voit qu'on tire tous dans le même sens, parents, élèves, vie scolaire, profs, ce qui montre qu'il y a un sentiment d'abandon extrêmement fort.
Lors de la dernière grève du 1er février, le syndicat SNES-FSU comptait 47% de grévistes dans les collèges et lycées. Le ministère avait lui annoncé un taux de 20% de grévistes.
Une grève aussi aujourd'hui à la Poste. Quatre syndicats veulent y dénoncer pêle-mêle dégradation des conditions de travail des postiers, augmentations salariales insuffisantes et précarisation galopante.
France Inter 6h06 à Gaza, des travailleurs humanitaires étrangers tués dans une frappe israélienne.
Quatre étrangers, oui, et leur chauffeur palestinien, collaborateur de l'ONG américaine World Central Kitchen, chargé de livrer de la nourriture. C'est cette ONG qui a organisé notamment la première livraison directe par bateau le mois dernier à Gaza. Le Hamas affirme que les victimes sont britanniques, polonaises et australiennes. Canberra confirme qu'une de ses ressortissantes a été tuée. À Washington, la Maison-Blanche se dit profondément troublée et demande une enquête rapide à Israël. Par ailleurs, après le raid aérien imputé à l'armée israélienne et qui a visé hier l'ambassade d'Iran en Syrie, le Hezbollah promet à son tour ce matin une vengeance. Ce crime ne passera pas sans que l'ennemi soit puni, réagit la formation chiite libanaise. 11 morts dans cette frappe, dont des hauts gradés des gardiens de la révolution iraniens. Israël ne confirme pas en être à l'origine, mais on sait que depuis le 7 octobre, l'État hébreu intensifie ses frappes en Syrie contre les alliés du Hamas. Les défis qui l'attendent à la tête du Sénégal sont immenses. C'est aujourd'hui que Bassirou Diomaye Faye doit officiellement être investi président à Dakar, 10 jours après son élection, dès le premier tour. Il accède au pouvoir suprême à 44 ans seulement, après une ascension fulgurante et la promesse d'une rupture avec le système en place. Sur place pour Inter, Théa Olivier.
Dans son programme, Bassirou Diomaye Faye a déjà évoqué plusieurs chantiers prioritaires. D'abord, la baisse du coût de la vie. Ensuite, il a promis la création d'emplois dans un pays avec un taux de chômage de 20% et avec de plus en plus de jeunes qui prennent le chemin de l'immigration clandestine vers l'Europe. Bassirou Diomaye Faye a aussi insisté sur sa volonté de rétablir la souveraineté bradée à l'étranger selon lui, ce qui pourrait passer par une réforme du franc CFA. Tout en réassurant les bailleurs sur les intentions du Sénégal de rester un allié sûr et fiable, il a déjà évoqué la renégociation des accords de pêche ainsi que des contrats pétroliers et gaziers alors que le pays s'apprête à devenir cette année un producteur d'hydrocarbures. Mais le nouveau président va devoir composer avec une assemblée nationale où il n'a pas la majorité, une assemblée qu'il pourrait être obligé de dissoudre afin de pouvoir gouverner. À Dakar, Théa Olivier pour France Inter.
Aux États-Unis, l'inquiétude grandit autour de la grippe aviaire. Depuis quelques jours, des cas étaient signalés parmi des troupeaux de vaches du jamais vu outre-Atlantique. Et on a appris hier soir qu'un de ces bovins avait transmis le virus à un humain, ce qui est rarissime, seulement la deuxième fois que cela arrive aux États-Unis. Symptômes légers pour le patient concerné, mais vigilance accrue pour les autorités.
40 ans après sa mort, des inédits de Marvin Gaye refont surface.
Oui, on croyait tout connaître de l'œuvre de la star américaine de la soul, tuée par son père le 1er avril 84, mais la BBC vient de dénicher des enregistrements jamais diffusés jusque-là et retrouvés en Belgique, où le chanteur de Sexual Healing a passé quelques mois en 1981. Pierre Benazet est à Bruxelles.
Ce qu'on entend là, c'est Marvin Gaye en train d'enregistrer une chanson en Belgique. Depuis 1981, personne n'avait entendu cette mélodie. Cette année-là, le prince de la soul a vécu 6 mois à Ostende. C'est d'ailleurs en Belgique qu'il a enregistré un de ses titres les plus connus, Sexual Healing. Mais apparemment, Marvin Gaye avait fait bien d'autres essais de composition musicale. Thank God, because I will never remember that again. Est-ce que ça enregistre ? Demande Marvin Gaye. Heureusement, parce que sinon je ne m'en souviendrai jamais. En quittant la Belgique, il aurait dit à ses hôtes : je vous laisse tout ça, faites-en ce que vous voulez. Tout ça, ce sont divers costumes de scène, quelques carnets de notes et des dizaines de cassettes audio. 38 contiennent des enregistrements avec sa voix. Et les heureux détenteurs de ces cassettes aimeraient maintenant que ces mélodies puissent devenir de nouveaux titres de Marvin Gaye. Mais un casse-tête juridique va se poser. Selon la loi belge, au bout de 30 ans, celui qui détient un objet en devient propriétaire. Cette loi ne vaut pas pour la propriété intellectuelle. Pour espérer entendre un jour un peu plus que ces quelques secondes d'enregistrement, il faudra que ceux qui les détiennent trouvent un accord avec les héritiers de Marvin Gaye. Pierre Benazet, France Inter, à Bruxelles.
Et donc vous l'entendiez, on apprend que Sexual Healing a été conçu en Belgique avec ses paroles sans équivoque. Hein, je vous les rappelle, bébé, je suis chaud comme un four, j'ai besoin d'amour. Voilà, je vous laisse avec ça.
Et bien, retournez à votre bureau, ouvrez la fenêtre, ça va vous refroidir. Alexis Morel, bonjour Nicolas Perronel.
Bonjour Mathilde.
Dans votre esprit sport, une affaire qui fait beaucoup de bruit à Béziers, le club de rugby de la ville n'est plus propriétaire de son logo.
Et oui, ni son logo, ni ses couleurs, ni ses insignes, ni même son sigle ASBH, Association Sportive de Béziers Héros. C'est l'histoire à la base d'une erreur, d'un oubli. Les clubs, comme les marques, doivent déposer leur titre de propriété, on appelle ça comme ça, l'INPI, l'Institut de la propriété industrielle. Le club l'a fait et pensait être tranquille pour 20 ans, mais raté. Le renouvellement du dépôt a lieu tous les 10 ans. Et en 2020, donc, tout est retombé dans le domaine public.
Et pourquoi ne pas renouveler ce dépôt, même avec du retard?
Parce que le club n'a pas été le premier à s'en rendre compte. Il y a quelques mois, une biterroise s'était aperçue de cette erreur. Elle s'appelle Constance Calandry. C'est une ancienne employée de mairie, ancienne candidate Front National aux législatives de 2012. Et elle a décidé de déposer logo et sigle à son nom, la voilà donc propriétaire pour les 10 prochaines années.
Mais dans quel but? Qu'est-ce qu'elle veut avec ça?
Alors c'est là que ce n'est pas très clair. Elle assure n'avoir aucune démarche commerciale. Elle demande d'ailleurs au club de faire comme avant, c'est-à-dire même logo, même couleur, sans contrepartie financière. Alors pourquoi, c'est vrai, ne pas avoir tout simplement prévenu les dirigeants? Beaucoup y voient une provocation avec pour cible Robert Ménard, le maire de Béziers avec qui elle est en conflit, la mairie étant actionnaire majoritaire du club de rugby. Constance Calandry, elle, jure que non, au micro de France Bleu Héros.
Je vois pas pourquoi il y aurait une revanche. Non, non, je vous assure. Je vous assure, faut pas y voir une action politique ou malveillante, pas du tout. Enfin, j'irai dans l'intérêt général, il n'y a aucun problème là-dessus. Je n'empêcherai pas le club de l'utiliser, je n'empêcherai pas les bitérois et les bitéroises continuer de clamer le nom de leur équipe dans les stades. Enfin, il n'y a vraiment pas de problème.
Hein. Voilà, visiblement, il y a quand même un petit problème, car tout cela pourrait se terminer au tribunal. Le club de Béziers, 11 fois champion de France, a déposé un recours pour dépôt de marque frauduleux.
Nicolas Perronnet pour l'Esprit Sport. Dans 30 secondes de l'escrime dans le 5-7, nous serons dans l'usine française qui fabrique les armes qu'on verra au JO. Elle est numéro 1 dans le monde.